Bonjour, bonjour à tous, mardi 8 janvier 2018, pas du tout, 2019, voilà, je ne suis pas réveillé en cette matinée, ce début d'année 2019, effectivement, bonne année à tous, meilleurs vœux de la part de nous, l'équipe du mardi. Je ne suis pas seul, je suis Louis de Bernis et il y a avec moi autour de la table, eh bien un revenant pour commencer, Jean-Charles.
Bonjour,
Jean-Charles Algan.
Bonne année à tous, merci.
Après une parenthèse de 2-3 mois, vous revoilà.
Oui.
En forme.
Absolument. Oui, 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 tout va bien. Avec une petite congestion comme
voilà,
nous tous.
Nous y sommes tous abonnés, je crois. La petite congestion là, de début d'année dans le nez. Mais nous soignons.
N'est-ce pas?
Et nous allons bien. Yves Olivier nous rejoindra peut-être, comme d'habitude. L'année commence normalement.
Et.
Et vous êtes là également, Côme.
Bien sûr, bonne année à tous, bonjour, bonjour.
Meilleurs vœux, la santé, vous l'avez un peu la santé là.
Ouais, tout va bien.
Même
pas de congestion, rien du tout.
On
croise les doigts pour le moment.
De ne pas le contaminer alors. Et nous avons des sujets, et eh bien je vous écoute, qu'avons-nous en ce début d'année à proposer à nos chers auditeurs?
Eh bien pas mal de choses, hein. On pourrait repartir dans l'espace dès le début d'année, mais on va peut-être attendre un petit peu. Non, on va parler du lendemain de fête, vu que c'est un petit peu l'occasion, et d'une petite traversée de l'Antarctique, pourquoi pas, on a quelque chose à dire, pas mal de choses à dire.
Très bien, de votre côté Jean-Charles?
Moi je suis toujours dans les voyages et la restauration alcool. Donc, où aller en 2019 à travers le monde? Les destinations qui sont proposées pour nous. Et puis, éventuellement, si on a le temps, faut-il laisser nos enfants s'initier à l'alcool? Je fais quand même de l'éducation.
Hein. Oui, effectivement, c'est une bonne idée.
Voilà.
De mon côté, des insolites, comme d'habitude, je vous emmène ce matin dans le dark web, le monde obscur d'Internet, le côté obscur d'Internet plutôt. Également, nous parlerons pourquoi pas de tatouages en Tunisie. C'est une nouveauté dans le pays, ça commence à se répandre. Voilà, également pourquoi pas, comment être en première classe pour pas cher. Ça, je vous donne la technique qui marche à tous les coups, vous verrez.
Je prends.
Voilà, pour des voyages en avion agréables. C'est parti, allons, décollons avec les voies de service en 2019.
Très bien, et bien commençons donc avec les lendemains de fête. Je pense que tout le monde connaît ça, hein, les lendemains de fête un peu difficiles, mal réveillés, la gueule de bois comme on dit.
En aurait-on vécu récemment par hasard?
Est-ce qu'il y en a eu autour de cette table? Peut-être, je ne sais pas. Effectivement, le réveillon de fin d'année est souvent propice à une consommation excessive d'alcool, ce qui pose notamment le problème de la gueule de bois du lendemain. Et donc quelques conseils pour commencer 2019 en douceur. La gueule de bois n'est évidemment pas un terme médical. C'est une façon populaire et légère de qualifier ce qui est en fait une véritable intoxication alcoolique, aussi connue sous le nom de vésalgie, un terme qui viendrait du norvégien kveis, signifiant inconfort succédant à la débauche, et du grec algia, signifiant douleur. Effectivement, c'est pas très agréable. Maux de tête, vertige, nausées, vomissements, confusion des idées, fatigue et un sentiment général de malaise. Voilà les quelques symptômes caractéristiques d'une gueule de bois et qui font généralement promettre à celui qui les ressent qu'il ne reboira plus jamais. Entre déshydratation, modification hormonale, libération de molécules inflammatoires et déséquilibre du taux de sucre dans le sang, la gueule de bois résulte d'un processus complexe durant lequel l'organisme s'efforce d'éliminer l'alcool qu'il a dans le sang. Ainsi, les symptômes caractéristiques apparaissent généralement 8 à 16 heures après une consommation excessive, lorsque l'organisme a déjà éliminé une bonne partie de l'alcool ingurgité. C'est d'ailleurs au moment où le taux d'alcoolémie tombe à zéro que les symptômes seraient les plus marqués. La digestion d'alcool nécessite un gros travail du foie, qui dans le meilleur des cas peut éliminer environ 35 ml d'alcool en une heure, ce qui équivaut à une bière ou un verre de vin. Ce processus d'élimination engage plusieurs mécanismes biologiques, qui restent encore assez méconnu des scientifiques. L'un des effets connus est directement corrélé à la gueule de bois est la difficulté pour le cerveau à sécréter l'hormone antidiurétique, l'ADH, une molécule qui aide le corps à retenir l'eau et rend donc les urines plus concentrées. Moins cette hormone est sécrétée, plus l'organisme gaspille de l'eau pour éliminer l'alcool. Et c'est pourquoi l'excès d'alcool est souvent associé à un phénomène de déshydratation. En fait, c'est juste une c'est juste qu'une plus grande quantité d'eau est nécessaire pour éliminer l'alcool, ce qui explique pourquoi nous allons plus souvent uriner. Mais la gueule de bois étant bel et bien une intoxication alcoolique, elle résulte tout bonnement de ce que le corps va identifier comme un empoisonnement. Quand on boit, notre organisme métabolise l'alcool et le transforme en un composé chimique toxique, l'acétaldéhydique, ou éthanol. Il résulte d'une dégradation de l'éthanol contenu dans l'alcool. À des concentrations élevées, l'acétaldéhydique peut produire des symptômes désagréables, comme le ferait un poison. Enfin, dans l'estomac, l'alcool provoque une inflammation plus ou moins importante des tissus, ce que les médecins appellent la gastrite alcoolique. Et c'est cette irritation des muqueuses qui est à l'origine des nausées, des contractions de l'estomac, et qui peuvent aboutir à des vomissements. Alors comment éviter tout ça? Le meilleur remède contre la gueule de bois est encore de ne pas boire d'alcool. Voilà.
Pour commencer.
Ou du moins d'éviter les excès. Si vous ne dépassez pas l'équivalent de 4 verres de vin, tout devrait donc bien se passer.
Par heure?
Exactement,
c'est ça. Si toutefois vous veniez à vous laisser aller, sachez qu'il n'y a aucun remède scientifique validé pour faire passer ce douloureux moment. Le meilleur moyen est de limiter la casse et d'aider l'organisme à éliminer l'excès d'alcool en s'hydratant abondamment. Pensez donc à boire de l'eau régulièrement au cours de votre soirée trop arrosée ou avant de vous coucher. Et de la même façon, s'alimenter correctement pendant qu'on boit peut limiter les effets du lendemain. Enfin, rappelons à ceux qui tomberaient dans l'excès qu'il est très important de prévoir un moyen sûr pour rentrer chez soi,
absolument,
évidemment.
Absolument.
Car le soir du Nouvel An, plus qu'aucun autre, il est capital de ne pas prendre le volant. Voilà.
Merci pour tous ces bons conseils. Nous connaissons tous autour de cette table Internet, bien évidemment, nous l'utilisons tous les jours, ça c'est acquis. Mais connaissons-nous le Dark Web? De nom sans doute, ce que ça représente, ce que ça englobe peut-être beaucoup moins. Eh bien, je vous parle du Dark Web et d'une entreprise française qui s'est lancée dans l'idée de faire un Google du Dark Web pour naviguer dans le monde obscur d'Internet. Un Google du Dark Web permettant d'aller fouiller dans les entrailles obscures d'Internet où s'achètent armes, drogues et codes de cartes bancaires, c'est l'outil à ne pas mettre entre toutes les mains qu'a développé une start-up française. Nous indexons la quasi-totalité du Dark Web, souligne Céline Aéry, cofondatrice d'Alep Networks, interrogée par l'AFP dans les discrets locaux de l'entreprise, nichée au cœur de la région viticole du Beaujolais, dans le centre-est de la France. L'accès au Dark Web se fait très classiquement à travers des logiciels accessibles via l'Internet de Monsieur Tout-le-Monde. Mais dans cet univers sulfureux, les internautes ne peuvent pas faire de recherche par mots-clés et avoir ainsi accès à une liste de sites. Pour aller plus loin, ils doivent disposer d'une adresse précise. Le logiciel Alep, lui, indexe et stocke donc des millions de ces pages du Dark Web, comme le fait Google ou Bing, par exemple, sur l'Internet traditionnel. En 5 ans, la start-up française a répertorié 1,4 milliard de liens et 450 millions de documents sur 140 000 sites en 70 langues différentes. Céline Aéry tape ainsi Glock, une marque autrichienne de pistolets prisée par les mafias, et coche la case Bitcoin, monnaie virtuelle supposée intraçable. Aussitôt apparaissent les liens de sites de vente en monnaie électronique de ces petits objets. Certains affichent même les étoiles de satisfaction de leurs clients, s'exclame son mari et PDG de l'entreprise Nicolas Hernandez. Début décembre, leur logiciel recensait 3,9 millions de numéros de cartes de crédit volés. Leur neutralisation était l'un des axes de développement pressentis par Alep. Mais les banques sont assurées, elles s'en fichent, souligne M. Hernandez. Une autre recherche sur le césium-137, ingrédient potentiel des bombes sales, fait apparaître 87 sites, un supermarché du terrorisme, explique encore comment fabriquer à la maison son bazooka ou ses explosifs. Ce paysage inquiétant est loin d'être figé au sein du Dark Web, les sites tombent très rapidement et se remontent sous une forme légèrement différente. Sans moteur de recherche, on ne peut pas avoir de vue d'ensemble, explique M. Hernandez. Son logiciel permet, lui, de visualiser les liens entre sites pour cartographier le Dark Web et ses éventuelles connexions avec l'Internet légal. Depuis 2019, la société ajoutera une couche d'intelligence artificielle pour reconnaître des images, comme par exemple des Kalachnikovs ou des photos d'enfants victimes d'abus ou marques contrefaites. À l'origine de l'aventure, M. Hernandez est un ami d'enfance, ingénieur informatique le jour, dans des grands groupes internationaux, et hacker la nuit au service de grandes causes, liberté d'opinion ou lutte contre la maltraitance des enfants. À la demande de Céline, alors institutrice, ils mettent au point en mode garage un logiciel pour agréger des blogs d'enseignants français hostiles à une réforme scolaire. Ce logiciel reste aujourd'hui à la base de leur technologie de collecte massive et de structuration d'informations. Sautant le pas, le trio monte en 2012 sa société, baptisée du nom de la première lettre de l'alphabet hébraïque, et l'une des définitions de l'infini pour les mathématiciens. Après avoir failli mourir 3 ou 4 fois à explorer en vain divers marchés, la société trouve, à sa grande surprise, son salut auprès de la communauté militaire. On avait été repérés par la Direction Générale de l'Armement, 2 jours après l'attentat contre Charlie Hebdo. Ils nous ont demandé une démonstration, raconte M. Hernandez. L'armée a été particulièrement sensible au discours consistant à dire que si on ne connaît pas un territoire, ce qui est le cas avec le Dark Web, on ne le maîtrise pas. Mais un tel outil ne peut tomber entre toutes les mains, d'autant que le Dark Web est aussi le lieu où s'organise la résistance au mouvement totalitaire, relève M. Hernandez, qui se voit volontiers en protecteur de la cité au sens grec ancien. Alep affirme refuser 30 à 40% des demandes de licence de son logiciel en s'appuyant sur son comité d'éthique et les conseils avisés de ses clients étatiques. « On tient à cette culture du non », dit-il. La société, qui compte aujourd'hui 9 personnes, a pu lever 200 000 euros à son lancement, dont 130 000 apportés par un business angel du Beaujolais qui a pris 20% de son capital et elle s'autofinance depuis 2017. Si elle ne devrait réaliser que 660 000 euros de vente cette année, elle compte les doubler l'an prochain, ce qui commence à titiller les investisseurs. Car l'enjeu est maintenant de décliner pour les entreprises privées les logiciels vendus aux administrations, ce qui nécessitera d'édicter des règles claires pour répondre à une foule de questionnements éthiques. Voilà pour cette petite société qui essaye de naviguer dans le monde obscur du Dark Web.
On s'est dit comme ça, on se verra là, tu me feras un signe. Où je te reconnaîtrai pas, j'ai hâte. Je sais pas pour toi. J'ai à peine vu ton visage, y a du flou sur ton image. T'as peut-être un gros cul, de la jazette qu'en finit plus. Puis un clavier, ça parle pas, ça dit pas le son de ta voix. T'as peut-être une voix de nymphette ou d'un pince-nez sur une trompette. Internet, c'est pas net. On est tous un petit peu malhonnêtes. Des nanas et des mecs. Un petit cœur qu'on sait plus quoi faire avec. Tant d'espoir dans un courriel. Y a des anges parfois cruels. T'as l'air de la femme parfaite. Un beau cul, une jolie tête. Tu m'inquiètes. C'est trop beau pour moi. Et si l'amour ça pardonne pas, ça fait pas de cadeau tu vois, ça blesse bien plus que l'on croit. Y'a des cœurs qui s'en remettent pas, t'as peut-être trop envie de me plaire. Juste besoin de passer l'hiver, d'une rencontre top secrète qui te ferait tourner la tête. De toute façon je sais que demain, tu seras déjà très très loin. Que ces amours éphémères, ça laisse souvent un goût amer. J'ai les couilles grosses comme un bahut, est-ce que je me marre ou je pleure dessus. Et me v'la bite dans le vent, couille rabattue, la poche qui claque vers l'inconnu. Internet, pour se mettre, on est tous un petit peu malhonnêtes. Des nanas et des mecs, un petit cœur qu'on sait plus quoi faire avec. Ta poitrine a l'air divine, est-ce qu'elle est en caoutchouc. Quand c'est faux, on les devine, ça fait j'couic à chaque bisou. Le fromage en grain, moi tu sais, j'trouve que ça pas de goût. Internet c'est que des mots, une webcam qui fait défaut. Une tonne de filles dynamiques qui font du sport, qu'aiment la musique. Selon leurs amis, elles sont toutes belles, surtout pas artificielles. À croire tout ce qu'elles disent d'elles, manque plus que les trous pour mettre les ailes. Durable et stable et sensuel, cherchant l'amour éternel. Souriante, très très naturelle, et pas un poil sous les aisselles. Dis-moi ton poids proportionnel, est-ce qu'il est occasionnel. Et tes quelques livres en trop, est-ce qu'elles rentrent dans un cajot. Internet, va te faire mettre. On est tous beaucoup trop malhonnêtes. Des nanas et des mecs. Un petit cœur qu'on sait plus quoi faire avec. Selon elle, l'homme parfait est autonome et pas marié, aimant la nature, les petits soupers, le vin rouge et voyager. Arrête. Je pense que je vais craquer. Intelligent et cultivé, sans avoir la tête enflée, mature, prêt à s'engager, avec un passé bien réglé, terre à terre, aventurier, toujours le mot pour plaisanter, attentionné, très très fidèle, et un baiseur exceptionnel. Dis-moi, je veux surtout pas te faire chier, des mecs comme ça, j'ai tué le dernier. Si je l'ai tué, c'est par pitié, il était plus capable de bander. D'ailleurs, je m'apprête à l'empailler, il est en train de sécher dans le grenier. Si vous voulez, je peux vous le montrer, mais c'est pas bon à regarder. Internet, va te faire mettre. On est tous beaucoup trop malhonnêtes. Des nanas et des mecs. Un petit cœur qu'on sait plus quoi faire avec.
Le dark web est un sujet bien sérieux. On s'éloigne un petit peu du dark web pour aller plutôt se promener sur Internet avec Jamil, qui nous rappelait qu'on est un peu tous un peu trop malhonnêtes.
Hein? Merci Jean-Sébastien. Jean-Charles, l'année commence. Nous sommes pétris de bonnes intentions, mais nous avons besoin de destinations de voyage.
Mais oui, il faut nous donner du rêve. Où aller en 2019? Alors, c'est un condensé d'un article de Stéphane Morin dans la presse. De quoi sera faite l'année 2019? Difficile à dire, mais nous pouvons d'ores et déjà affirmer que certains événements seront courus par les voyageurs du monde entier. En voici 10 que nous mettrions volontiers à notre itinéraire. Mais là, je vais faire juste du résumé très succinct. Donc,
le meilleur.
Dans les 10, je l'ai fait dans l'ordre de l'article. Allahabad, en Inde, c'est... Tous les 12 ans sont présentés dans les 4 villes différentes de l'Inde. Le Kumbh Mela est considéré comme le plus grand rassemblement religieux du monde. Donc ça, c'est du 15 janvier au 4 mars. Je vous passe les détails, mais c'est immense. C'est quelques millions de pèlerins en peu de temps, en fait. En Arizona, aux États-Unis, le parc national du Grand Canyon a 100 ans. Donc, festivité toute l'année. Je vous passe les détails. Toronto, au Canada. Donc, la ville reine accueille, à compter de février, au Gardiner Museum, une exposition consacrée aux céramiques de l'artiste contemporain et défenseur des droits civiques, Ai Weiwei. Le chinois d'origine est reconnu pour bousculer les conventions et cette exposition ne devrait pas faire exception, du 28 février au 2 juin. La vallée de l'Elqui, au Chili. Alors, il faudrait y être le 2 juillet en après-midi à 16h38.
Ah d'accord, là, il n'y a pas de
fenêtre. Plus exactement, non, c'est ça. Donc, c'est dans le nord du Chili. Le jour se transformera en nuit noire pendant un peu plus de 2 minutes lorsque la lune passera entre la Terre et le Soleil pour provoquer une éclipse solaire totale. Mais le phénomène devient spectaculaire quand il survient au-dessus de la vallée de l'Elqui, juste au-dessus du désert d'Atacama. Ensuite, nous allons à Vevey, en Suisse, ville tranquille, nichée sur les rives du lac Léman. Vevey, V-E-V-E-Y, devient festive une fois tous les 20 ans environ avec la présentation de la fête des vignerons du 18 juillet au 11 août. Alors quand on dit fête des vignerons, on dit « Oh, petite kermesse !» Non, là il y a le Cirque du Soleil, y a, là
ah
j'en
oui,
passe.
C'est, oui, c'est très sérieux.
C'est des grosses affaires. Ce que je vous parle, hein, c'est ce que je vous dis, c'est des grosses affaires. Anaheim et Orlando, c'est aux États-Unis, dire que les fanatiques de saga Star Wars attendent le moment avec impatience tient de l'euphémisme. Car oui, c'est cette année que Disney ouvrira dans ses parcs thématiques nord-américains de grandes sections, près de 60 000 mètres carrés, consacrés à l'univers de Star Wars et baptisés Galaxy's Edge, été et automne 2019. Ensuite, on va au Panama, la plus ancienne colonie européenne sur la côte pacifique de l'Amérique, célèbre ses 500 ans d'existence en 2019, donc ça c'est jusqu'au 15 août, à partir de maintenant. Au Japon en 2019, pour les adeptes du rugby, la planète sport va plutôt vibrer pour le rugby à 15, dont la 9e Coupe du Monde est présentée à l'automne dans plusieurs villes nippones, du 20 septembre au 2 novembre. À Paris, en France, et dans beaucoup d'autres villes d'ailleurs, L'année 2019 marque le 500e anniversaire de la mort de Léonard de Vinci. Plusieurs musées européens comptent marquer le coup. À l'automne, les dates restent à confirmer. Et bien sûr, le Louvre ne fait pas exception.
Sans blague.
Et le dernier la dernière petite destination, Berlin en Allemagne, le 9 novembre 2019, marquera les 30 ans de la chute du mur de Berlin. Donc on fait ça toute cette année.
Autant 2019. D'événements incroyables, nous voilà rhabillés pour l'hiver.
Oui.
C'était rapide, mais on a tous bien noté dans nos agendas. Voilà. Merci beaucoup, Jean-Charles. Olivier, vous nous avez rejoint.
Oui.
Vous arrivez dans le studio.
Ça fait.
Eh bien.
Bonne année, Olivier.
Merci. Telle la neige.
Meilleur vœu. Et bien, comme d'habitude, vous allez amener un peu de sérieux dans cette émission. Nous comptons sur vous à chaque fois.
C'était off the record. Mm-hmm. Alors, bonne année encore une fois à tous les auditeurs. Moi, je vais vous parler tout d'abord de dis-moi.org. Donc, c'est un site web pour aider les ados en détresse. Près d'un adolescent sur trois. Donc 29% présente un niveau élevé de détresse psychologique, selon les données dévoilées par la semaine dernière par l'Institut de la Statistique du Québec. Dis-moi.org, donc c'est dis-moi.org. Prends le problème à bras le corps. Après avoir conçu une plateforme de prévention destinée aux écoles secondaires, l'organisme à but non lucratif en développe une autre, Bloop, B-L-O-O-P, pour inciter les jeunes à échapper entre eux. Pour échanger entre eux, tout en facilitant l'accès à des ressources professionnelles. Dis-moi.org a été lancé dans la foulée du documentaire « Bye », dans lequel l'homme d'affaires Alexandre Taillefer tente de comprendre le suicide de son fils de 14 ans et qui invite la communauté techno de Montréal à se regrouper pour trouver des solutions afin de venir en aide aux ados en détresse. La première application de l'OBNL prend ni plus ni moins la forme d'un ami virtuel, un sympathique robot qui sonde régulièrement l'humeur des jeunes. Si ça fait 4 ou 5 fois que le jeune répond qu'il est triste, il l'incite à faire de l'introspection, explique Annie Nebveux, directrice générale de dis-moi.org. S'il veut parler à quelqu'un, il peut le faire avec une personne de son école, et s'il veut le faire anonymement, le jeune est redirigé vers tel jeune, automatiquement, sans qu'il ait à poser une autre action. Tel jeune, c'est T-E-L-jeune, J-E-U-N-E-S. L'initiative a été déployée dans 2 écoles secondaires dans sa phase préliminaire. Et si elle a permis de constater que le besoin est là, donc une dizaine de jeunes sur les 115 participants ont lancé un « appel à l'aide », entre guillemets, elle a aussi mis en lumière ceci, révèle Annie Nebveux. Dans la majorité des cas, les jeunes ne veulent pas parler à un adulte. Le robot peut bien sûr recueillir des confidences et même faire un suivi le lendemain. Grâce à l'intelligence artificielle, l'équipe derrière dis-moi.org peut repérer les jeunes à risque et les accompagner. Ce système de détection est très sensible, assure dis-moi.org, mais aussi supervisé par des êtres humains, plus à même d'interpréter les mots des ados. L'organisme a toutefois voulu aller plus loin. Avec l'aide d'influenceurs, elle a développé une autre plateforme, donc, dont je vous parlais tantôt, qui s'appelle Bloop, où les jeunes peuvent discuter entre eux. Bloop est là pour démystifier la santé mentale et offrir une communauté à ces jeunes, leur montrer qu'ils ne sont pas seuls, explique Annie Nebveux. Et quand ils ont pris conscience qu'ils ont besoin d'aide, on les redirige vers dis-moi.org et leur milieu scolaire, ou d'autres ressources. Anxiété, gaming, relations familiales, sexualité, harcèlement, difficultés scolaires, tous les sujets sont bons sur Bloop. Pourquoi avoir collaboré avec des influenceurs? Parce que les jeunes se confient spontanément à eux. Audrey Cloutier, l'une d'elles, confirme que le lien intime qui se crée entre elle et ceux qui la suivent sur Instagram fait que les ados s'adressent à elle comme à une amie. Or, elle n'est pas formée pour répondre à une ado qui lui confie d'avoir été victime d'agressions sexuelles par exemple. Rediriger les ados sur Bloop, où elle est aussi active, permet d'offrir un soutien approprié et de se sentir elle-même épaulée. L'organisme travaille toujours à développer ses plateformes et à chercher les moyens de déployer dis-moi.org dans un plus grand nombre d'écoles. Annie Nebveux insiste pour dire que ces services ne cherchent pas à se substituer à une organisation bien implantée comme tel jeune. Elle ajoute toutefois que pour se tourner vers une telle ressource, le jeune doit déjà avoir envie de parler. Bloop et dis-moi.org se positionnent en amont et cherchent à inciter les ados à parler de leurs petites et grandes difficultés. Alors, C'est vrai que c'est le début d'année et on a parlé de sujets bien sympathiques. C'était pas pour plomber l'ambiance que j'ai parlé de ce sujet-là. C'est... Oui, non, tu voulais dire quelque chose, Jean-Charles ?
Non,
okay. je voulais juste clarifier qu'en fait, je côtoie pas d'adolescents tous les jours. Hein. Je suis plus à l'école
pas
depuis
encore.
Bien longtemps.
Pas encore.
Oui, pas encore en plus, c'est ça.
Je
me prépare,
ça
c'est ça. Mais c'est surtout parce que durant le temps des fêtes, on en côtoie un peu plus, tu sais, dans les familles, tu vas dans les familles, et les adultes font la fête parce que là, c'est, on est en vacances. Et là, tu vois dans les coins de salon et tout des ados qui déjà se demandent qu'est-ce qu'ils foutent là. Ils n'ont pas l'air de fêter, même s'ils ont reçu le dernier jeu de société à la mode. Alors ça m'a fait penser à ça, surtout qu'en début d'année, tout le monde parle de performance, de « c'est mon année » et tout. Et tu penses à ces jeunes ados qui, eux, pour eux, bah, on reprend là où on a laissé. Là, en décembre,
ben oui, qui ont beaucoup de questions. Alors si on peut leur apporter quelques réponses pour leur aider, voilà. Une belle initiative. Merci Olivier.
Alors aujourd'hui à Montréal, on a pas mal de neige quand même, j'ai l'impression.
On a cru remarquer, oui, effectivement, on nage un peu.
Je n'ai même pas trouvé le trottoir.
Effectivement. Eh bien, on va parler de Colin O'Brady qui pendant 54 jours, a dû en voir beaucoup de la neige. Beaucoup, beaucoup, parce qu'il a traversé l'Antarctique en solo, sans assistance, en 54 jours donc.
À pied.
À pied.
D'accord.
Colin O'Brady est un ancien athlète professionnel âgé de 33 ans. Il a achevé son périple mercredi 26 décembre 2018. Et tout au long de son parcours, il était suivi par GPS, et les détails de son aventure ont été publiés chaque jour sur son site. Équipé de skis de fond, il a tiré sa poulka, une sorte de traîneau transportant toutes ses provisions et son matériel, qui pesait tout compris 180 kilos, quand même. En 96 et 97, l'explorateur norvégien Bård Husland, vous excuserez ma prononciation, qui est sûrement fausse, et l'accent. Bård Husland avait été le premier à traverser le continent blanc en solo, mais il avait été aidé par un parafoile, un cerf-volant ressemblant à un parapente. D'autres aventuriers ont, eux, été ravitaillés en cours de route. Le lieutenant-colonel britannique Henry Worsley a trouvé la mort en 2016 en essayant de traverser l'Antarctique seul et sans assistance. D'autres ont fait demi-tour. Et le 3 novembre, Colin O'Brady et Louis Rudd, un militaire anglais de 49 ans, ont à leur tour tenté l'aventure. Ils sont partis ensemble du campement de Union Glacier et ont ensuite cheminé séparément.
Et donc, cette fois-ci, eh ben, il a réussi avec tout son barda.
Tout son barda, 154 jours. Et il avait également fait l'Everest.
Tout
et
simplement.
Les, et les 7 sommets les plus élevés du continent.
Un sacré bonhomme. Alors, merci, Com. On se retrouve juste après une petite pause. Nous revoilà pour la deuxième partie de cette émission et c'est moi qui la débute. Je vous emmène en Tunisie où je vais vous parler d'un petit phénomène de société qui nous fera sans doute sourire un peu ici tant la chose est répandue. On va parler de tatouages. On en voit très souvent un peu partout, surtout l'été bien évidemment, ici des tatouages à Montréal. Mais dans certains pays, eh bien, on n'en est pas exactement au même stade, va-t-on dire. Longtemps méprisé, le tatouage sort de l'ombre en Tunisie. C'est un texte tiré du Soleil. Penché sur une peau synthétique, Gada, 19 ans, dessine avec brio des figures géométriques sophistiquées à l'encre de Chine avant de passer au dermographe, une machine permettant de tatouer. La jeune femme, qui étudie également le management touristique et hôtelier, se forme au tatouage par passion, mais pas seulement. C'est un art et un métier d'avenir, et c'est un secteur où il n'y a pas beaucoup de femmes, ce qui représente pour moi un défi. Le tatouage autrefois répandu dans les communautés rurales tunisiennes a longtemps été jugé grossier, vulgaire, réservé à des personnes peu éduquées ou ayant mal tourné. Mais ces dernières années, il redevient tendance, notamment auprès des jeunes qui choisissent des motifs plus ostentatoires. Dans la classe de Gada, les 8 autres étudiants âgés de 19 à 31 ans espèrent eux aussi devenir des tatoueurs diplômés ayant pignon sur rue. Actuellement, la plupart des tatoueurs tunisiens travaillent dans l'illégalité. Je me défoule avec quelque chose que j'aime, se réjouit Sami Essid, fier de ses bras ornés de motifs verts. Ce kinésithérapeute de 31 ans projette d'ouvrir un tattoo shop dans son cabinet. C'est à la Marsa, banlieue chic du nord de Tunis, qu'a ouvert mi-novembre la première école tunisienne de tatouage, reconnue par l'État, une première dans le monde arabe et en Afrique du Nord. Elle a été créée par Fawez Zamoul, un tatoueur renommé qui s'est battu pour avoir une autorisation et entend structurer la profession, syndicat à l'appui. Cet ancien ingénieur s'est lancé dans ce secteur en 2006, participant à des formations à l'étranger pour apprivoiser une passion qui est devenue un métier, selon ses mots. Le tatouage est une tradition berbère séculaire en Tunisie, utilisée surtout parmi les bédouins, pour des raisons esthétiques. Les symboles étaient scarifiés sur les visages ou les corps avec un outil contendant, le meshkla. Mais des responsables religieux ont condamné cette pratique et les citadins considéraient longtemps comme rétrograde ces artifices traditionnels, notamment après l'indépendance en 1956, lorsque le pays s'est engagé dans une modernisation à marche forcée. Le tatouage a également souffert, d'être assimilé au monde de la délinquance et de la prison, où dans les années 70, truands et détenus n'hésitaient pas à se faire tatouer les noms de leurs proches. En ouvrant en 2016 le premier salon de tatouage légal en Tunisie, Fawez Zamoul a souhaité transmettre tout son savoir-faire à d'autres personnes. Lui, qui s'est fait agresser par 4 individus l'accusant de vendre des produits sataniques, estime aujourd'hui que le tatouage n'est plus un problème comme dans le passé en Tunisie, grâce notamment au passage fréquent de vedettes tatouées dans les médias. Chaque samedi et dimanche, 6 mois durant, ces étudiants apprennent les règles d'hygiène et les secrets du tatouage, pour 4000 dinars, soit environ 1830 $ canadiens. Pour Amin Labidi, l'un des enseignants de cette école, celle-ci est une nouvelle porte qui s'ouvre dans le monde arabe et en Afrique du Nord. À notre époque, nous avons bien galéré pour apprendre les techniques et astuces. J'espère que ces nouveaux artistes n'auront pas les mêmes difficultés que nous, dit ce tatoueur de 32 ans, au corps orné de 40 dessins. Le drapeau de la Tunisie, le nom de Dieu et de ceux qu'il aime, les symboles des idées qu'il défend. Ingénieur de formation, il se réjouit des générations que nous sommes en train de former au tatouage, alors que jusqu'ici, les Arabes en général n'ont pas beaucoup contribué à cet art. Voilà pour cette nouvelle université tunisienne.
Petite question, comment on appelle vous savez, les aînés?
Oui, le aîné, le tatouage au aîné.
Au aîné, ça va faire concurrence à l'industrie du aîné, non?
C'est sûrement, mais là, peu, c'est du permanent. Là.
On pourrait poursuivre l'étude un peu.
On va faire une étude de marché, on va se rendre en Tunisie, bonne idée.
Ou voir comment il pourrait y avoir une...
Et pas que...
Et qui dit retour de Jean-Charles dit retour de sujet alcoolisé.
Oui, mais très sérieux. Faut-il laisser nos enfants s'initier à l'alcool?
Ça n'est pas incompatible.
Non, c'est vrai. Mais quand même, c'est pour prévenir les éventuelles futures gueules de bois. Quand on parlait en début
pourquoi
de l'émission...
Pourquoi vous regardez Combe quand vous dites ça?
On est juste mardi.
Ça, mais tu n'étais pas là. C'est Combe qui nous a lu un article sur la gueule de bois.
Ça aurait pu servir peut-être.
Donc, faut-il laisser nos enfants s'initier à l'alcool? Maud Goyer de La Presse, hein, en collaboration spéciale. À 11 ans, Alexandre demande à tremper ses lèvres dans le verre de bière de son père. Rosalie, 10 ans, aime ouvrir les bouteilles de vin. Et Charles, 12 ans, est un as pour préparer les martinis des invités. Est-ce grave, docteur?
Ça va faire une belle génération, ça.
Faut-il y voir un épicurisme précoce ou les prémices de mauvaises habitudes avec l'alcool? Ces questions, Annie, mère de 5 enfants âgés de 7 à 15 ans, se les pose régulièrement et particulièrement dans le cas de son garçon de 12 ans qui a manifesté très tôt une curiosité pour l'alcool. Annie a opté pour l'ouverture et la discussion. Une bonne idée selon le docteur Jean-François Chicoine, pédiatre au CHU Sainte-Justine. Une étude démontre qu'avant 16 ans, 85% des adolescents font plus confiance à leurs parents qu'à quiconque, dit-il. Pour tous les sujets importants, comme les jeux vidéo, les menstruations, la consommation de cannabis ou d'alcool, c'est toujours mieux si ce sont les parents qui répondent aux questions des enfants. Il rappelle qu'une relation de confiance parent-enfant se bâtit au fil du temps grâce à un lien d'attachement fort. Hubert Sassy, directeur général d'Éducalcool, croit lui aussi que la participation des parents est cruciale. Ils sont les premiers modèles de leurs enfants. Selon M. Sassy, toutes les recherches démontrent que plus l'alcool est consommé tard, mieux se porte la santé des préadolescents et adolescents. D'un point de vue purement scientifique, alors là, je vais vous en apprendre une. Aucun alcool ne devrait se boire avant que la troisième phase du développement du cerveau ne soit terminée. À quel âge, messieurs ? À 23 ans. C'est biologique. Mais bien sûr, entre ce que dit la science et la vraie vie, il y a un monde. Retarder la consommation est donc un objectif à garder en tête. Toutefois, il est aussi souhaitable que l'introduction à la consommation d'alcool se fasse avec les parents et non avec les pères, selon Hubert Sassy. Si à 9 ou 10 ans, la réponse des parents doit être ferme quant à la possible dégustation d'alcool, à 13 ou 14 ans, c'est plus délicat. Ce qui est interdit peut devenir ce qui est convoité, avance la psychologue Nadia Gagné. Il faut expliquer pourquoi c'est permis pour les adultes et pas pour les enfants. Dire ce que ça fait au cerveau, l'impact sur notre état, notre jugement et ce que ça peut faire à long terme. On parle des risques sans banaliser ni dramatiser. Je crois beaucoup à l'éducation face à l'alcool, dit-elle. Et bien sûr, au cours des réveillons, un mon oncle ou une belle-sœur lance en riant que votre enfant devrait prendre un verre. Hubert Sassy prêche aussi par la prévention et la communication. Mieux vaut prévenir que guérir. Avant que le parti ne soit lancé, on prévient nos proches et on convient qu'il n'est pas question de pousser notre enfant à boire, explique le directeur général d'Éduc'Alcool. Il ne faut pas avoir peur d'intervenir. N'oublions pas qu'en restant silencieux, on approuve. Donc il faut parler et être ferme, sans humilier qui que ce soit, ni paraître trop rigide. Donc voilà, est-ce qu'il faut laisser nos enfants s'initier à l'alcool ?
Puis il se passe quoi si tu commences avant 23 ans ?
Bah ça commence à...
Ah bah ton cerveau, regarde-nous, le développement du cerveau n'est pas incomplet.
Je vois pas de différence avec moi qui a commencé juste à 27. C'est bien
En tout cas.
C'est ça.
Ça sent la bière de Londres à Berlin. Ça sent la bière, Dieu qu'on est bien. Ça sent la bière de Londres à Berlin. Ça sent la bière, donne-moi la main. C'est plein d'Eulenspiegel et de ses cousins et d'arrière-cousins de Bruegel l'ancien. C'est plein de vent du nord qui mord comme un chien, le porc qui dort, le ventre plein. Ça sent la bière de Londres à Berlin. Ça sent la bière, Dieu qu'on est bien. Ça sent la bière de Londres à Berlin. Ça sent la bière, donne-moi la main. C'est plein de verres pleins qui vont à kermesse, comme vont à messe vieilles au matin. C'est plein de jours morts et d'amour gelé. Chez nous y'a que l'été, que les fillettes encore. Ça sent la bière de Londres à Berlin. Ça sent la bière, Dieu qu'on est bien. Ça sent la bière de Londres à Berlin. Ça sent la bière, donne-moi la main. C'est plein de finissants qui soignent leurs souvenirs en mouillant de rire leurs poiluchons blancs. C'est plein de débutants qui soignent leurs véroles en caracolant de Prosit en scroll. Ça sent la bière de Londres à Berlin. C'est plein d'Amsterdam, c'est plein de mains d'hommes au groupe des femmes. C'est plein de mes mères qui ont depuis toujours un sein pour la bière, un sein pour l'amour. Ça sent la bière de Londres à Berlin. Ça sent la bière, Dieu qu'on est bien. Ça sent la bière de Londres à Berlin. Ça sent la bière, donne-moi la main. Plein d'horizons à vous rendre fou, mais l'alcool est blond, le diable est à nous. Les gens sans Espagne ont besoin des deux, on fait des montagnes avec ce qu'on peut. Ça sent la bière de Londres à Berlin. Ça sent la bière, donne-moi la main.
J'espère que vous nous écoutez en rediffusion. Si oui, il est présentement 22h40 environ. Parce que pour ceux qui nous écoutaient en direct, 9h40 le matin, on parle de bière. Ouais, ça déstabilise un petit peu, c'est mélangé.
Bon matin. Bon matin houblonné ce mardi matin. Pas plus question de bière, passons complètement à autre chose. Enfin, pas tant que ça, non, en fait, du tout.
On devait passer à autre chose.
Parlons de Prosecco, vraisemblablement, avec Yves Olivier.
Et on promet aux auditeurs qu'on n'en a pas pris, hein, même si on a l'air jovial comme ça.
Non, mais on aurait pu.
On est juste content de se voir.
Exactement.
Oui, en fait,
nous pétillons sans bulle.
Et nous apprenons à guérir le mal par le mal.
Oui, aussi.
Vous y repenserez à cette phrase-là. Vous m'avez un peu. C'est voilà. Et donc.
C'était hors ronde.
C'est ça. Moi, je voulais vous rendre hommage, cher Jean-Charles, parce que j'allais parler de vin spiritueux, donc le Prosecco. Ça, c'est de 1 et de 2. Je voulais nous réconcilier avec l'alcool par rapport à votre sujet. Donc, c'est pour ça que je tiens à parler de Prosecco italien, qui est de plus en plus populaire. D'accord. Ce vin mousseux fruité fabriqué dans les collines du nord-est de l'Italie gagne en popularité. Et les producteurs de champagne, depuis toujours, la vedette du vin effervescent, en sont bien conscients. En termes de volume, le Prosecco est devenu aujourd'hui le vin mousseux le plus vendu dans le monde et les experts soulignent qu'il commence à gruger des parts de marché au champagne, le vin français synonyme de fête, mais aussi de gros sous. La production de vin italien a éclipsé celle de champagne il y a 5 ans et est maintenant supérieure de 75% à 544 millions de bouteilles. Le champagne continue de revendiquer la palme du chiffre d'affaires, encaissant un record de 4,9 milliards d'euros l'année dernière sur 307 millions de bouteilles, dont 2,8 milliards d'euros générés à l'exportation. Mais la bulle du Prosecco ne montre aucun signe d'éclatement. La valeur des exportations est en hausse de 16% cette année par rapport au sommet de 804 millions d'euros enregistré l'an dernier. Ajoutant l'insulte à l'injure, les ventes ont augmenté de 40% en France, berceau du champagne, selon une estimation. Et ces chiffres ne reflètent pas la hausse du 20% des ventes saisonnières de Noël. Michael Edwards, un expert qui a été critique de vin pour le magazine Décanté et a écrit le livre Les meilleurs vins de champagne, explique que les consommateurs sont de plus en plus intéressés par les vins mousseux. Le Prosecco capitalise sur le désir de boire du mousseux, mais pas nécessairement du champagne, dit-il. Le succès de la bouteille italienne est attribué à son prix plus abordable et à sa promesse d'une libation à tout moment, ce qui la rend populaire au Royaume-Uni, aux États-Unis et en Allemagne, marchés sur lesquels le champagne a longtemps prospéré. Avec un coût de production moyen de 3,70 euros, environ 5,75 canadiens, la bouteille, soit une fraction des 10,24 euros en moyenne pour le champagne, le Prosecco peut être acheté à un prix qui le rend attrayant et après une journée de travail ou lors d'une réunion informelle, sans tambour ni trompette. Je vous assure que je n'ai rien pris. Hein. Son prix plus bas est en partie attribuable à sa méthode de production plus simple que la méthode champenoise. Elle comporte deux procédés de fermentation, tous deux dans le grand réservoir, tandis que la seconde période de fermentation du champagne est effectuée pendant la mise en bouteille du vin. Cela nécessite de stocker les bouteilles de champagne à angle et de les tourner légèrement chaque jour à la main pour faciliter la fermentation, un travail onéreux lorsqu'il est effectué sur des milliers de bouteilles. Les producteurs de Prosecco eux-mêmes sont surpris du succès de leur vin et font tout pour ne pas le gaspiller. Ils se heurtent non seulement aux imitateurs, mais également à d'autres vins à bulles, tels que le Cava espagnol qui ne rivalise toujours pas avec le Prosecco en termes de vente mondiale, et le Sekt allemand. Connaissiez-vous ? S-E-K-T.
Pas encore.
Dont les experts disent qu'il s'en est amélioré en qualité. Comme le disaient les vieux aubergistes, même la fontaine à l'extérieur concurrence le bar, a ironisé Armando Serena. Connaissiez-vous quelqu'un
Non.
Pas mal. Directeur du consortium Assolo de fabricants de Prosecco. Mais ce n'est certainement pas un phénomène auquel nous nous attendions. C'est un sujet de réflexion pour les producteurs de champagne, peut-être. La popularité croissante du Prosecco et la prolifération des vins effervescents générés par les jeunes consommateurs obligent les producteurs de champagne à faire mieux. La qualité du champagne à ce jour n'a jamais été aussi bonne parce qu'elle doit l'être. Le danger réside dans la concurrence, alors il faut que le champagne soit meilleur, estime l'œnologue Edwards. Mais les trois consortiums qui produisent du Prosecco ont tiré des leçons du champagne. Ils ont réussi à faire pression pour que le Prosecco devienne une dénomination d'origine contrôlée et garantie. Sa région de production est établie autour de la ville de Trévise et englobe 5 provinces de la région élargie de la Vénétie et 4 de la province voisine de Frioul, Vénétie-Julienne.
Vénétie.
Vénétie-Julienne, pardon. Merci. Jusqu'à la frontière slovène. Avez-vous un problème avec mon accent, Jean-Charles ?
Non, mais le Prosecco, c'est proche de Venise.
Et cette appellation obtenue en 2009 a aidé les producteurs à mieux contrôler la qualité du Prosecco et à lutter contre les imitateurs. Ah.
Bon, j'arrive pas à résister, hein. Je pense qu'on va, quitter un peu le sol terrestre.
Sur votre chasse-siège.
Alors, bon, on va pas partir très très loin, c'est promis. Parce qu'on va juste aller sur la Lune, en fait.
Oh,
voilà, c'est pas
c'est juste à côté.
C'est vraiment.
Exactement.
C'est le truc des Chinois, là.
Ah, je vois que tout le monde n'est pas.
À force de vous côtoyer, on essaie de s'instruire avant.
Effectivement, c'est ça. C'est un petit peu l'événement de ce début d'année 2019, hein. La Chine qui a démarré très fort l'année en faisant allunir le 3 janvier 2019 un engin sur la face cachée et encore inexplorée de la Lune. Une première mondiale qui confirme son statut de puissance spatiale. Elle avait déjà envoyé fin 2013 l'alunisseur Chang'e 3, encore en opération, qui avait déployé un robot motorisé, dénommé Lapin de Jade, sur la face visible de la Lune. La sonde Chang'e 4 s'est posée dans le bassin d'Aitken, équipée de plusieurs instruments, notamment européens. Son robot mobile U2 a commencé à se déplacer sur cette face invisible de la Terre. Dans tous les cas, quoi que les Chinois découvrent, l'impact scientifique sera important, estime Michel Vizeau de l'agence spatiale française CNES. La Chine compte bien poursuivre sur sa lancée et prépare déjà Chang'e 5, une mission de retour d'échantillons lunaires prévue pour le moment courant 2019. Jusqu'à présent, seuls 3 pays sont parvenus à se poser sur la surface de la Lune, située à quelque 384 000 km de la Terre. La Russie, les États-Unis et la Chine. Et 12 astronautes américains ont foulé son sol lors des 6 missions entre 1969 et 1972. L'Inde espère rejoindre le club fermé des pays capables d'alunir en envoyant prochainement la mission Chandrayaan 2, qui comprendra un alunisseur, un robot mobile indien et un mini-robot européen construit aux Pays-Bas. La mission devrait être lancée par l'agence spatiale indienne en février, selon cet expert, directeur du groupe de travail sur l'exploration lunaire internationale. Alors, Israël compte aussi entrer dans la course, avec un alunisseur Bereshit de 150 kg, fabriqué par la société israélienne privée SpaceL, l'une des finalistes de la compétition internationale Google Lunar X Prize. Et les équipes en lice devraient être capables de faire alunir un robot mobile avant le 31 mars 2018.
2019.
2019, peut-être. Effectivement, oui, pardon. La compétition s'est achevée sans vainqueur et sans remise de prix final. Mais SpaceL a poursuivi sa lancée. Son robot devrait être lancé en février par une fusée Falcon 9 de la firme américaine SpaceX. Le but de la mission est de montrer qu'Israël est capable d'alunir et de déployer un robot mobile, de déposer des charges utiles scientifiques et culturelles. 2019 sera une année clé pour l'exploration lunaire, considère Bernard Foin. Après les missions en orbite autour de la Lune des années 2000, on franchit une nouvelle étape. C'est un début d'un village robotique sur la Lune, avec des engins lancés par de nouveaux pays et différents types d'acteurs, notamment commerciaux. Le Japon prévoit l'envoi vers 2020-2021 d'un petit atterrisseur lunaire baptisé SLIM pour étudier une zone volcanique précise sur le sol lunaire. Et de son côté, la Russie continue à travailler sur la mission robotique Luna 27 qui doit aller explorer les glaces du pôle Sud, avec une participation européenne d'ici à quelques années. Les États-Unis, qui s'apprêtent à célébrer les premiers pas de Neil Armstrong et Buzz Aldrin sur la Lune le 20 juillet 1969, préparent eux aussi la suite. En 2017, le président Donald Trump a signé une directive ordonnant à la NASA de retourner sur la Lune, comme une première étape avant d'aller sur Mars, en s'appuyant sur le secteur privé. Programme très avancé, le vaisseau américain Orion, fabriqué par Lockheed Martin et dont l'Europe fournit le module de service, doit réaliser un vol en automatique vers 2020 autour de la Lune. Puis, il devrait emporter 4 astronautes en 2023 pour un aller-retour de 8 jours autour de notre satellite. Et la NASA a également annoncé en décembre avoir choisi 9 entreprises privées pour construire des atterrisseurs et livrer du matériel sur la Lune, sur laquelle les Américains veulent envoyer des astronautes dans une décennie. C'est le 8e continent de la Terre, considère Bernard Foin. Nous pouvons y développer des sciences, des technologies, des coopérations internationales, utiliser des ressources, inspirer le public et les jeunes avec les emplois au service de l'humanité, assure l'astrophysicien. Donc de quoi se construire une petite base bientôt là-bas.
Et la ruée vers la Lune.
Exactement, et aller faire des petites vacances sur la Lune.
La voiture, est-ce que c'était Made in China ?
Quelle voiture ?
On le sait, ça, c'était, mais tu sais, qui s'est rendu sur la Lune, la face cachée. Là.
Non, c'est un robot chinois, oui, effectivement.
Un robot chinois.
Merci.
Je dis ça, mais je dis rien. Mais...
The lunatic is on the grass, remembering games and daisy chains and laughs. Got to keep the loonies on the path. The lunatic is in the hall. The lunatics are in my hall. The paper holds their folded faces to the floor. And every day the paper boy brings more. And if the dam breaks open, and if there is no room upon the hill, and if your head explodes with dark foreboding too, I'll see you on the dark side of the moon. The lunatic is in my head. The lunatic is in my head. You raise the blade, you make the change, you rearrange me till I'm sane. You lock the door, throw away the key. There's someone in my head, but it's not me. And if the cloud bursts thunder in your ear, you shout and no one seems to hear. And if the band you're in starts playing different tunes, I'll see you on the dark side of the moon.
Un petit joyau musical qui fonctionnait tout à fait avec le sujet dont on vient de parler, extrait du magnifique album The Dark Side of the Moon de Pink Floyd. C'était l'avant-dernière pièce de cet album qui s'intitule Brain Damage.
Merci Jean-Sébastien. Et un lien, j'en ai un aussi avec ce dernier article que je vous propose. Donc on nous parlait des Chinois qui vraisemblablement sont une première puissance spatiale. Eh bien, juste à côté d'eux, il y a Hong Kong qui a un petit peu plus de mal, vraisemblablement, avec tout ce qui va dans les airs, puisqu'il y a eu une grosse bévue de la part de Cathay Pacific.
Un pilote bourré, ça.
Non, un programmeur informatique bourré, probablement. Et voilà, et je vous donne la technique. Donc, si vous voulez des prix, des billets d'avion, pardon, à prix bradé, eh bien, c'est lié à un de nos premiers sujets de la journée aussi. Soyez réveillés de très bonne heure le 1er janvier, donc soignez-vous bien pendant la soirée pour ne pas avoir la gueule de bois le lendemain et surveillez les billets d'avion. Des dizaines de voyageurs pourront siroter du champagne, et pas du prosecco, dans les confortables fauteuils de première classe sur des vols Cathay Pacific sans casser leur tirelire, après que la compagnie aérienne a vendu par erreur des billets à prix bradé. Elle a mis en vente sur son site internet dans la nuit du Nouvel An des billets de première classe et de classe affaires pour des vols reliant le Vietnam et l'Amérique du Nord à 900 $ canadiens seulement, alors qu'ils en valaient 16 000, tenez-vous bien. Il a fallu 2 jours à Cathay Pacific pour reconnaître publiquement son erreur, mais ils ont affirmé « Nous avons hâte de vous accueillir à bord avec ces billets ». C'est bien joué, beau joueur de la part de la compagnie. Rappelons que Air Canada avait dû aller en justice pour une pareille affaire il y a quelques semaines. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à vous trois, comme Yves Olivier, Jean-Charles, pour ces sujets
Merci
variés.
Merci Louis.
Merci Jean-Sébastien pour la mise en onde et les choix musicaux.
De la réalisation et tout.
Et tout, le chef d'orchestre.
Les tunes.
Les tunes.
Nous sommes repartis pour cette année. À la semaine prochaine, c'est parti pour 2019 avec les voix de service.